Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Corinne Morel-Darleux. Bonjour.
Bonjour.
Corinne Morel-Darleux, vous êtes ici pour nous annoncer une parution toute récente de La Sauvagière, un roman en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Oui, qui vient tout juste de sortir là, parmi les nombreux titres qui sortent pour la rentrée littéraire aux éditions d'Alva.
D'ailleurs, une entrée littéraire moindre puisque je crois qu'il y a moins de 500 éditions pour cette rentrée.
En termes de titres pour la rentrée littéraire, c'est effectivement un petit peu plus raisonnable que les années précédentes, même si ça reste un vrai déluge pour les libraires. Mais effectivement, il y a un petit peu moins de titres et donc on espère qu'il y aura aussi un peu moins de pilons.
J'allais le dire. Et donc, vous êtes ici pour nous parler de ce livre, La Sauvagière. Ce titre, La Sauvagière, cela évoque quoi pour vous, justement? Moi, je suis allé voir une définition. Hein. C'est conforme à l'état de nature et qui n'a pas subi l'action de l'homme.
Oui, alors il y a aussi une autre définition qui est celle dont je me suis emparée, qui est un lieu où on se retire pour se mettre à l'abri des contacts humains. Et ce terme de sauvagière, en fait, c'était un apax. Un apax, je l'ai découvert à cette occasion, c'est un mot qui n'apparaît qu'une fois dans un corpus, et là en l'occurrence dans le corpus littéraire romanesque. Et la fois où il apparaît, c'est dans un livre qui s'appelle Le Matéotique, de Henri Bosco, qui est apparu en 1945. Et dans ce roman d'Henri Bosco, il était donc utilisé dans cette définition. Et voilà, c'est cette définition, moi, qui m'a beaucoup plu, l'idée d'un lieu un peu hors du temps, hors de la civilisation moderne, dans lequel on puisse se retirer.
Est-ce que ce lieu existe-t-il aujourd'hui?
Alors, dans le monde réel, il devient de plus en plus difficile à trouver et à atteindre, même si on a la chance, nous, dans le Diwa, d'avoir encore beaucoup de ces espaces sauvages et pas trop abîmés, on va dire, par les activités humaines. Mais pour moi, c'est surtout que c'est une des fonctions du roman, c'est justement de permettre ce qui n'est pas ou n'est plus possible dans le monde réel, pour tout un tas de raisons, d'ailleurs des raisons matérielles, mais aussi parfois des raisons morales et politiques. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est un peu le cas, puisque clairement, c'est difficile aujourd'hui de s'autoriser ce retrait du monde au moment où il a tant besoin, au contraire, de nos actions militantes, de nos combats. Mais de temps en temps, on a quand même besoin de faire une pause, et un roman peut être l'occasion de faire justement cette pause.
Alors un roman qui est à la première personne, je reviendrai un peu dessus, mais on peut résumer peut-être aussi ce que raconte ce livre.
Oui, alors effectivement c'est un roman écrit à la première personne du singulier avec une narratrice dont on comprend assez rapidement qu'elle a eu un accident de moto et qu'elle s'est réveillée dans une maison forestière située en montagne, isolée, dans laquelle vivent déjà deux autres femmes, Stella et Jeanne, qui sont deux femmes assez énigmatiques, silencieuses, voire carrément mutiques. Et donc, c'est la manière dont la vie va s'organiser entre ces trois femmes, en dehors d'un langage articulé, au rythme des saisons, au rythme du potager, et puis avec des événements un peu fantastiques entre le thriller et le rêve qui vont intervenir au fil du récit.
Là, dans la présentation, La Sauvagière est présentée comme une fable onirique. Est-ce que cela présage peut-être ce futur abri que l'on pourra encore avoir ?
Alors c'est vrai que en fait quand j'ai commencé à travailler sur l'idée de ce roman et à faire mes recherches, en fait j'étais à ce moment-là beaucoup dans des recherches sur à la fois sur le domaine clinique psychiatrique, donc je faisais beaucoup de recherches sur la question des psychoses et des souffrances et des errances, on va dire, mentales. Et à côté de ça, je faisais aussi des recherches parallèles sur la psychanalyse des rêves. Et donc, naturellement, voilà, il y a beaucoup d'éléments dans le roman qui tournent autour de ces deux pôles, le rêve et la folie, pour faire court. Un peu aussi la question du coma, qui est en filigrane. Et tout ça, en fait, sont autant de manières différentes, justement, de trouver refuge, parfois, face à l'injonction, à la normalité qui nous est renvoyée par la société. Une normalité, comme le disait un auteur que j'aime beaucoup, qui est Juan José Saer, il parlait de la normalité comme du délire accepté de notre relation au monde. Et il me semble effectivement que le monde devient lui-même de plus en plus fou. Et que face à ça, ce sont ceux qui gardent leur raison, leur optimisme et leur joie de vivre et leur quiétude intacte qui paraissent finalement les plus inquiétants.
La normalité, vous en parlez, comment est-elle perçue aujourd'hui par une population? D'ailleurs, on a pu noter avec ce Covid une certaine déperdition mentale pour beaucoup de monde, avec des angoisses. Je ne sais pas où je voulais en venir avec cette question, mais...
mais je veux bien quand même y répondre. Oui. Parce que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps avec des publics assez jeunes, hein, puisque j'ai publié aussi des romans pour la jeunesse. Donc je fais voilà, pas mal de rencontres en scolaire ou en périscolaire, du CM2 au BTS. Et c'est vrai que je suis très frappée en fait par les souffrances et les désarrois que provoque... assez logiquement, hein, par ailleurs, la marche du monde. Et c'est vrai que cette espèce de succession, là, 2020-2022, entre la pandémie de Covid, l'arrivée de la guerre en Europe avec l'Ukraine, bien sûr, le chaos climatique et singulièrement cette période-là estivale qu'on vient de vivre avec... Des incendies qui ont touché la France un peu partout. Tout ça, évidemment, ébranle et doit nous ébranler et nous inquiéter. Par contre, ça ne doit pas nous sidérer et c'est là où voilà, je garde, moi, le cap de l'action politique, de l'action collective, pour que, justement, on ne reste pas coincé dans des émotions individuelles. Mais pour le coup, dans La Sauvagière, on est un peu dans ces deux registres-là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une forme de critique sociale, justement, de cette époque moderne où il faut aller vite, avec beaucoup de précarité, beaucoup de détresse, beaucoup de tumulte, et l'aspiration au ralentissement, l'aspiration à... Voilà, à renouer avec des choses simples, avec une forme de frugalité. C'est aussi un peu tout ça que j'avais envie d'explorer dans ce roman.
Voilà, je voulais revenir sur la normalité. C'est par rapport aussi à cette référence que la population peut vouer au pouvoir et à la machine d'État pour gérer le quotidien. Justement, il y a cette faiblesse qui grandit aussi au niveau de ce pouvoir. Est-ce que ça aussi, c'est une source d'inquiétude et de stress?
D'inquiétude et d'inspiration, puisque moi, je suis assez proche de réseaux militants qui, justement, prônent une forme d'autonomie politique, matérielle, collective, c'est-à-dire de se poser la question de comment est-ce que on assure nos subsistances au quotidien sur des territoires donnés sans tout attendre de l'État. Voilà, c'est aussi cette question-là des subsistances au quotidien que j'effleure dans le roman. Qu'on le souhaite ou non, parce qu'il y a aussi des bonnes choses qui nous sont venues de l'État, et je pense notamment à la conquête d'un certain nombre de services publics, de protection sociale. pour lesquels des luttes importantes ont été menées. Mais force est de constater aujourd'hui que cet État, non seulement il met à mal lui-même ses services publics, il recule partout en matière de protection sociale, et la mue néolibérale, capitaliste et productiviste de l'État est aujourd'hui totalement consommée. Donc il faut qu'on reparte aussi de ce réel-là et pas uniquement d'un réel fantasmé pour savoir comment on va faire face dans les mois, les années qui viennent aux différentes pénuries et aux différents désordres qui ont déjà commencé à s'annoncer, que ce soit sur la question de l'eau, sur la question de l'alimentation, sur la question de l'énergie et donc de manière plus générale de ce qui nous permet de subsister au quotidien.
Le fait d'avoir choisi une maison forestière au milieu des montagnes, pour vous, cela semblait essentiel que cette histoire s'y situe ?
Bah, je crois que oui, enfin, en tout cas, c'est venu tout naturellement. Je me souviens qu'à l'époque, en fait, j'avais été très surprise, en fait, d'apprendre que l'Office national des forêts, l'ONF, mettait en vente des maisons forestières un peu partout dans le territoire. On sait quelle est la difficile situation de l'ONF et la manière dont la direction a beaucoup abîmé cette organisation pourtant si cruciale. On l'a encore vu cet été. Et donc, voilà, j'étais allée voir sur Internet les différentes maisons forestières en vente. Et j'étais tombée sur une maison forestière dans le Jura dont l'image m'a vraiment beaucoup marquée et qui a servi de point de départ à ce cadre, à ce décor du roman. Bon, après, de toute évidence, le lieu où on écrit influe aussi beaucoup sur ce qu'on écrit, en tout cas pour moi c'est le cas, et le fait d'écrire depuis le pied du Vercors, depuis notre Diwa entouré de montagnes et de forêts, transpire évidemment beaucoup dans le roman qui s'inspire aussi très largement de nos paysages.
Il y a ce livre, vous en avez écrit d'autres aussi, c'est le premier roman, je crois, pour adultes.
Premier roman pour adultes, tout oui. À fait. Il y a eu des romans précédemment, mais qui sont sortis en jeunesse. Là où Le Feu et l'Ours, qui est apparu chez Libertalia l'année dernière, qui est un livre tout public. C'est une catégorie qui n'existe plus trop, malheureusement, dans l'édition ou en librairie. Mais tout public, ça veut dire qu'on peut le lire de 11 à 111 ans. Et puis un autre roman, là pour le coup vraiment jeunesse, Le Gang des Chevreuils Rusés, qui est sorti lui aussi l'année dernière au Seuil Jeunesse, où on est là plutôt pour une catégorie d'âge de 8-12 ans, puisque c'est une collection de romans qui sont encore illustrés, qui sont des premiers romans, on va dire, à lire seul comme un grand.
Ce choix d'écrire pour aussi les jeunes, les enfants, cela vous semble primordial ? Est-ce que, justement, cela peut paraître aussi à une lacune des médias à l'adresse des enfants ? Que reste-t-il d'ailleurs pour eux ?
Alors c'est vrai qu'en littérature enfant ou jeunesse de manière plus large, c'est-à-dire adolescent ou ce qu'on appelle maintenant post-adolescent ou jeune adulte, moi j'ai été très marquée de voir qu'en fait on était soit sur des choses franchement niaises et gnangnan pour les petits, soit beaucoup sur des choses, alors là à l'inverse, complètement sadiques pour les ados et les jeunes adultes. Et voilà, j'avais envie de proposer un espèce d'entre-deux, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui soit ni complètement plombant, en fait, pour ces jeunes qui ont déjà largement de quoi se désespérer dans leur vie de tous les jours, ni complètement niaise, c'est-à-dire sans écarter une forme de lucidité par rapport à ce chaos, à ce désordre qui viennent, qui sont déjà là, mais en l'abordant de manière à ne pas... complètement baisser les bras, mais à trouver aussi des raisons soit de s'émerveiller, soit de se battre, soit préférablement de faire les deux en même temps. Et donc, dans Là où le feu est l'ours, il y a une part dystopique qui pourrait être considérée comme post-apocalyptique, mais il y a aussi une grande part d'utopie à travers un lieu, l'oasis, qui est un lieu dans lequel se mettent en pratique des principes groupes écolos, féministes, voilà, on pourrait aller jusqu'au municipalisme libertaire pour les plus pointus des militants. Et dans le gang des chevreuils rusés, on a affaire à un groupe de jeunes qui s'organisent dans un petit village de montagne pour déjouer le projet de promoteurs immobiliers qui veulent raser la forêt, les vignes, les champs pour construire un hôtel golf de luxe. Donc voilà, il y a évidemment des messages qui passent par le roman, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du roman didactique, moraliste ou culpabilisateur, c'est vraiment du roman qui se lit comme du conte ou comme un récit d'aventure, mais avec quand même effectivement ce message-là, et ça me paraît effectivement important, plus que jamais, de le passer et de le passer à tous les âges.
Il y a cet ouvrage et puis les livres pour enfants. Vous avez aussi beaucoup rédigé sur les idées politiques également. Il me semble que vous avez peut-être pris aussi une pause dans l'action.
Alors, en fait, j'ai surtout pris une pause, enfin plus qu'une pause d'ailleurs, parce qu'elle commence à confirmer son caractère définitif de l'action institutionnelle. C'est vrai que moi, j'ai été pendant longtemps à la direction nationale du parti de gauche, qui est devenu ensuite la France insoumise. J'ai effectué deux mandats de conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pendant 11 ans, j'ai été élue à la région. Et depuis 3 ans, j'ai quitté toutes mes appartenances partidaires et je n'ai pas souhaité me représenter aux dernières élections régionales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je continue à être active sur le plan du militantisme, mais j'ai l'impression d'avoir touché les limites de ce qu'on pouvait faire dans ce registre électoral, institutionnel. En tout cas, moi, j'avais vraiment envie d'aller vers d'autres types d'actions et d'être plus dans des choses alors qui sont peut-être moins médiatique, moins visible, mais plus dans les milieux justement de l'autonomie, de l'auto-organisation et du faire plus que du dire. Et je dois dire que aujourd'hui, je m'y sens plus à l'aise, plus utile et plus sincère d'une certaine manière.
Par rapport à votre parcours, est-ce que vous ressentez au niveau des enfants, ils sont beaucoup plus perceptibles que l'adulte dans des idées qui pourraient être engagées.
Alors, je ne sais pas s'il y a plus de... Enfin, c'est très différent, en fait. Moi, j'aime beaucoup intervenir auprès des CM1, CM2, 6e, voilà, cette tranche d'âge, parce que c'est vraiment un âge où il y a une forme à la fois de candeur au sens où il n'y a pas encore de parti pris ou de construction sociale trop formatée et où donc il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de préjugés et donc on peut parler très librement de beaucoup de sujets et en même temps un âge où les gamins sont déjà très largement suffisamment éveillés en fait pour que la discussion soit vraiment riche et intéressante. Oui, il y a une forme de fraîcheur que j'ai plus de mal à trouver avec les adultes. Après, naturellement, les discussions entre adultes, elles ont aussi d'autres dimensions intéressantes que je ne peux pas avoir avec des enfants de 10 ans et qu'il ne faut pas d'ailleurs avoir avec des enfants de 10 ans parce que je ne m'adresse pas pareil naturellement et que moi, j'ai quand même toujours le souci à la fois d'avoir un discours lucide, qui ne soit pas un discours mensonger, mais en même temps de pas non plus asséner trop de vérités plombantes à des gamins qui sont pas encore en âge de les recevoir. Donc les discussions sont très différentes, mais elles ont toutes leur intérêt et en tout cas en termes de fraîcheur et de capacité à se ressourcer, clairement c'est plutôt auprès des classes de cours moyens que je trouve cette énergie là.
La Sauvagière, c'est le titre, et pour moi, ça laisse penser aussi c'est cette comment une maison forestière qui en quelque sorte ramène à l'originel la personne qui y vit ou qui y séjourne, comme les héroïnes qui sont dans le livre. Est-ce que ça, le fait d'y être, se voit-elle se transformer ou se remettre en question, certainement?
Oui, tout à fait, effectivement. C'est vrai que le fait, clairement, le fait de séjourner dans une maison comme ça, isolée, en pleine forêt, en pleine montagne, avec, alors elle dispose d'un potager, d'un verger, et qui sont d'ailleurs quasiment des personnages à part entière du roman, qui est quand même très lié aussi à la question des saisons, de comment on se nourrit, comment on survit, comment on se chauffe. Mais voilà, on est effectivement dans un roman où toute la partie, en tout cas, qui se déroule dans cette maison forestière, se déroule en l'absence de toute intervention moderne, technologique, numérique, etc. Donc là, on est vraiment dans un espèce de fantasme de retrait de cette époque moderne. Et naturellement, ça va avoir une influence considérable sur la narratrice qui, comme elle l'explique elle-même, avait cette envie en fait de fuite, de désertion, mais n'a jamais eu le courage finalement de déserter. Comme elle le dit à un moment donné, c'est l'accident de moto qui lui a permis de le faire, et ça va la métamorphoser littéralement, hein, puisque on parle là d'une femme qui a grandi dans un espace citadin, urbain, qui a peur de la forêt, qui a peur des bêtes sauvages qui pourraient y vivre, qui ne s'y aventure jamais seule, et qui petit à petit va apprivoiser à la fois cette forêt et ses habitants non humains, mais aussi sa propre part d'animalité. Et donc c'est là où on rentre aussi dans l'onirique, voire parfois dans le fantastique, mais avec des sources d'inspiration et des enseignements qui, eux, peuvent être très réels et très, très tangibles, je crois, dans nos vies quotidiennes, et qui, en plus, sont absolument primordiaux, c'est-à-dire concrètement le fait de prendre conscience collectivement, massivement, que l'être humain n'est pas déconnecté des écosystèmes, de la nature, qu'il en fait partie, qu'il en est interdépendant, et que nous sommes en train de commettre un véritable suicide civilisationnel en continuant de dérégler le climat et de polluer de la manière dont nous le faisons collectivement aujourd'hui.
Vous parliez d'onirisme, de fantastique. Moi, je pensais aussi, pendant ces propos, à la science-fiction. Est-ce que la Sauvagière ne serait pas simplement un livre de science-fiction ?
Alors, de science-fiction, au sens strict, pas vraiment, parce que pour le coup, la science en tant que telle, alors même si forcément un bagage scientifique lié au fait que moi ça fait 15 ans que je lis un certain nombre de rapports de scientifiques, notamment sur les questions de climat et de biodiversité, mais la science n'est pas très présente dans le roman en tant que tel. Par contre, l'imaginaire, là on est vraiment dans de la littérature de l'imaginaire, effectivement, avec beaucoup d'influence pour moi aussi de la littérature gothique, des littératures anglaises de la période victorienne, avec les contes fantastiques, que ce soit ceux de Bram Stoker, de Hoffman, ou même des Sœurs Brontë, et puis aussi la littérature qu'on appelle romantique. Le romantisme en littérature, c'est vraiment un courant, moi, qui me passionne. Et j'ai découvert juste, je vais pas citer 10 000 titres, mais sur la fin de l'écriture de ce roman, je suis tombée sur Le Promontoire du songe de Victor Hugo, qui est un texte assez peu connu de Victor Hugo, dont il l'avait souhaité, d'ailleurs je crois qu'il ne paraisse qu'après sa mort, qui est la part un peu ésotérique de Victor Hugo, on va dire, mais qui est, voilà, moi je suis pas très ésotérique moi-même, mais l'ouvrage est extrêmement érudit, très beau, et avec en plus une magnifique préface d'Annie Lebrun, qui est aussi une essayiste qui m'a beaucoup inspirée, notamment sur un ouvrage qu'elle a écrit qui s'appelle « Du trop de réalité », qui est un ouvrage très critique sur cette ère du divertissement, de la captation de nos temps de loisirs et d'ennuis par l'industrie du divertissement, et donc où elle se désole du fait qu'il n'y ait plus de place pour le rêve. Et donc voilà, ça rejoint complètement le propos que je souhaitais développer dans La Sauvagière.
Annie Lebrun, je couperai, mais c'est, elle avait rédigé ça de Soudain l'abîme,
oui,
aussi.
Oui, voilà. Tout à fait.
D'accord. Il y a une vision assez ciblée quand même dans sa démarche littéraire.
Oui, alors moi je ne connais pas du tout ces travaux-là. Je connais plutôt ces travaux justement autour de Hugo, du rêve et de la critique sociale. Mais c'est un pan effectivement que je n'ai pas encore exploré chez elle.
Les personnages, donc le jeu, hein, la narratrice, Jeanne et Stella, comment leur donnez-vous les mots dans leur bouche ?
Alors c'était une des difficultés vraiment d'écriture de ce roman, puisque après avoir pas mal pataugé, je dois dire, pendant des semaines, voire quelques mois, sur la construction, j'ai fini par prendre le parti, pour des raisons que je ne veux pas trop dévoiler, pour garder quand même le plaisir du mystère de la lecture, mais j'avais pris le parti que ces deux personnages ne devaient pas s'exprimer à l'oral. Et donc tout passe effectivement par autre chose que par le langage articulé entre ces trois femmes, par des gestes, par des rencontres, et puis naturellement par les réflexions de la narratrice, puisque elle, on l'entend penser, on est dans sa tête, on suit donc en direct ses émotions, ses interrogations, ses troubles, ses envies, ses peurs, ses élans, et donc c'est principalement par ce biais-là, en fait, qu'on voit les deux autres personnages, Jeanne et Stella, agir, évoluer, se transformer au fil du roman.
Voilà pour La Sauvagière, c'est édité chez Dalva, une maison d'édition aussi qui est un petit peu axée sur ce style d'écriture.
Oui, tout à fait, et je suis contente d'en dire trois mots parce que ça a vraiment été une très très belle rencontre. C'est une maison d'édition qui publie des autrices, donc leur slogan c'est « Les femmes écrivent le monde », qui a choisi d'axer également son catalogue vraiment sur ce qu'on appelle en littérature anglo-saxonne le « nature writing », donc tout ce qui est éco-fiction, éco-poétique, sans que ce soit exclusif, mais avec quand même cette tonalité très importante, qui est aussi une maison d'édition assez engagée en termes de critique sociale, et qui est une maison d'édition relativement récente, puisqu'elle s'est créée il y a un peu moins de 2 ans, et que avec La Sauvagière, c'est la première rentrée littéraire d'un roman francophone, donc à la fois pour moi et pour ma petite équipe là de formidables éditrices, relations presse, responsables librairie. Et donc voilà, je suis très heureuse de travailler avec ces trois femmes et d'avoir fait la rencontre surtout de Juliette Ponce, cette éditrice qui a immédiatement accroché et donné sa chance à La Sauvagière.
La Sauvagière, dont la couverture est assez belle, l'illustration est de qui ?
Alors, c'est une agence d'illustrateurs et de graphistes avec laquelle travaillent justement les éditions d'Alva. Et c'est donc une conception graphique de Valérie Renaud et de Rémi Tricot, avec une photo originelle hein, de couverture de Pedro Tapa. Et je tiens aussi à préciser, puisque c'est un diwa, que la petite photo, le petit portrait qui illustre la biographie de l'autrice est de notre camarade du diwa, Vincent Astier-Perret. Merci à lui.
On peut vous retrouver aussi sur Internet. Hein. Vous rédigez ou mettez à jour votre blog ou votre site et qui s'intitule
Revoir les Lucioles, en un seul mot, tout attaché, .org.
Eh bien, Corinne Morel-Dalleux, je vous laisse parce que vous avez une séance de signature à la librairie Mosaïque.
Oui,
dans
tout
quelques
à fait.
Minutes. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci beaucoup pour cette invitation et j'étais heureuse de retrouver les ondes de Radio Diwa.
Et merci pour votre passage chez nous. Bonne journée.
Merci.
Au revoir.